bonjour et bienvenue à Back to Pipe. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Alors l'idée est très simple, moi je suis un américain, je ne connais pas super bien ce sport, mais je voulais m'entourer par des gens qui connaissent un peu plus que moi. Et donc voilà, la première personne c'est un deuxième ligne, joueur à Massif Central, et il commence à être éducateur aussi. Salut Charlie Bayer.
Salut mon TK, absolument, donc oui je connais un peu mieux le rugby que toi, je pense que c'est une très bonne définition de ma connaissance du rugby, et après avoir... et traîner cette connaissance du rugby sur les terrains de PH d'honneur et de Fédéral 3. Je tente de transmettre mon petit savoir au U10 du Massif Central toujours, et j'en suis très heureux.
Ils ont des dreadlocks ou pas?
Pas encore, ça va venir, les parents sont un peu réticents.
Et voilà, ça c'est la voix de notre deuxième ligne, qui mesure 2 mètres, il a joué à Racing 92, voici Théodore de Saint-Rémy.
Ah, Racing 92, je la connaissais pas celle-là, je l'aime beaucoup Thierry, ouais, ravi d'être là les amis.
Et pour nous donner une vision d'autre que des chaussettes et la boue dans le mêlée, on est content de voir un arrière avec nous, alors c'est Alban Borel des Pink Rockets, salut Alban.
Salut à tous, salut la team, je suis effectivement là pour vous donner une vision un peu plus en recul, on va dire, une vision d'un peu plus loin des môles et du cœur du rugby avec mon poste d'arrière, de centre du Stade Français.
Dis-moi, mon ticket, la dernière fois, on a parlé de Super Bowl un peu. J'y connais pas grand-chose en Super Bowl, mais je m'y connais un peu en troisième mi-temps et j'ai vu des images de Tom Brady qui avait l'air pas mal. Il était sur un bateau et il a fait une passe un peu dangereuse avec le trophée gagné. T'as plus d'explications là-dessus?
Oui, exactement ça. Donc en fait, normalement, on fait une espèce de parade où on se met dans des bus et on fait le tour du ville. Mais en fait, comme Tampa Bay il fait très beau, ben en fait, et aussi il y a un grand fleuve, c'est sur la côte du golfe de Mexique. Ben ils ont fait ça en bateau. Et donc ce qu'ils faisaient, c'est que bon, il avait l'air un peu bourré quand même. Donc il a pris le trophée de Super Bowl, hein, de Vincent Lombardi Trophy. Il a lancé d'un bateau à l'autre. Et il entend son fils qui dit non, papa, non.
Il l'a lancé à son acolyte d'ailleurs dont tu parlais la semaine dernière.
Ouais, the Gronk, yeah, exactement. Bon, je peux comprendre. Ouais, c'est deux mecs qui viennent, ils jouaient à Boston avant, il fait froid, c'est très classe ouvrier, c'est Irish, tu gagnes le Super Bowl, tu vas boire des tu fais la fête mais tu vas boire des pintes, tu fumes des cigarettes, tu gerbes dans la rue et là c'est complètement différent, ils sont en Floride, il fait beau, il y a la plage, il y a les bikinis. Ça me fait plaisir de le voir un peu décontracté Tom Brady. Mais quand même, je pense qu'il y a des histoires un peu comme ça avec le bouclier de Brennus, non Théo?
Oh bah le bouclier de Brennus, s'il pouvait raconter tout ce qu'il a vécu, lui, on pourrait écrire des livres.
Hein, parce que, il a servi de planche de surf à Perpignan.
Il a été, ouais, il a beaucoup vécu, et notamment bah, dans ses errements parisiens après les victoires au Parc des Princes il y a longtemps, et puis au Stade de France depuis maintenant une bonne vingtaine d'années. Ça terminait chez Castel, rue de la Soif, chez Coco et tout le machin. Et là, il en a vu aussi des vertes et des pas mûres. Donc, je pense qu'il peut en expliquer deux, trois trucs au trophée du foot américain. Surtout je suis sûr que le trophée du foot américain, il le change tous les ans en plus.
Bon, on va parler un peu de rugby. On a eu notre deuxième semaine de Six Nations. Ça nous a fait du bien. Et ce qui aussi nous fait du bien, c'est tout le retour qu'on a eu de notre dernier épisode.
Ouais, on a eu encore une fois pas mal de retours, on est très heureux. On a eu en particulier sur Twitter l'homme sans cœur qui nous a fait remarquer qu'en effet, on avait un peu le syndrome de l'enfant gâté à se plaindre de mettre une branlée aux Italiens, que c'était pas vraiment un petit plaisir, mais il finissait quand même son tweet en nous disant qu'il nous pardonnait parce que notre émission est, je cite, hein, je mets des guillemets, est la meilleure émission de rugby que j'ai entendue jusque-là. Bravo à vous, nous. Donc on est super content, ça nous fait vachement plaisir d'avoir des petits messages comme ça. Merci beaucoup, l'homme sans cœur, tu en as un gros.
C'est la classe.
Ouais. Bah, parfait, on va parler tout de suite de rugby, et surtout l'Angleterre, l'Italie. On y va les gars?
C'est parti.
Bah, archi chaud.
C'est parti.
Pack de potes, Terra 10.
Pour le premier match de ce week-end de Six Nations, alors on avait Italie contre l'Angleterre. En fait, ça prend pas beaucoup de temps pour les Italiens de marquer leur territoire. Alors, 2 minutes 30, ils marquent le premier essai. C'est le numéro 11, Montana Ione, qui marque un super essai. On l'a vu en forme la semaine dernière et il continue d'être en forme ici cette semaine. 10 minutes plus tard, en fait, c'est un essai des avants anglais face quand même à une défense bleue qui n'ont pas peur. C'est 8-8 à 25 minutes. Watson marque un essai, mais il n'y avait pas un petit en avant, dit EG avant. À 38 minutes, Montana, il sauve un essai. Mais 3 minutes plus tard, Johnny May fait un essai acrobatique. On est 20 à 8 pour la mi-temps. 49 minutes, les Italiens sont dans les camps des English avec un joli rugby et bam, interception de Watson encore. Donc c'est un deuxième essai pour lui, 27 à 11. 10 minutes plus tard, c'est l'avant Jack Willis marque un essai 34 à 11. Il va se faire blesser assez gravement par la suite. Quand même, à fierté des Italiens qui marquent un joli essai des arrières remplaçants. En gros, c'est un match qui mérite d'être regardé. Il y a l'Angleterre qui gagne 41 à 18. Mais cette équipe d'Italie donne envie avec leur 9, leur 10, leur 11. Franchement, un vrai plaisir à voir. Et en plus, il y avait deux en avant de Owen Farrell qui n'a pas l'air de passer une très bonne journée. Une chose, c'est sûr, c'est cette équipe d'Italie me donne envie de voir la suite.
Et oui, mais tu l'as dit, Tiquet, à l'image d'Owen Farrell, je trouve qu'on a une équipe anglaise évidemment dominante, mais peu convaincante. Honnêtement, j'étais presque contente des petits en avant de Farrell. C'est vrai qu'on s'en réjouit toujours un petit peu, mais voilà, après, c'est vrai que c'est toujours dommage. On en parlait la semaine dernière des imprécisions, on va dire, techniques des Italiens qui ont quand même des superbes lancements de jeu, qui avancent, mais qui, sur les dernières passes, n'assurent pas, à l'image de cette interception de Watson, qui, honnêtement, pour moi, était un crève-cœur, parce que je m'attendais à cet essai italien, et c'est vrai que Watson les a vraiment crucifiés. Donc, voilà, moi, ce que je retiens du match, c'est quand même des Italiens qui sont... qui performent mieux, en tout cas, que contre l'équipe de France, et puis des Anglais, voilà, peu convaincants. Et on attend de voir la suite avec grande impatience.
Ouais, je te rejoins un peu. C'est-à-dire que, bon, on était tous contents que l'Italie a mené au début de ce match. Enfin bon, ça n'a pas duré longtemps. Dès le début, moi, j'ai remarqué que cette non-assurance des Anglais, c'était qu'à la première pénalité qu'ils ont à la 8e, au lieu de chercher la pénale touche, ils choisissent les poteaux indirectement. Hein, c'est que contre l'Italie, ça se fait rarement, sans leur manquer de respect. On a été un peu sévère avec cette équipe d'Italie, mais à juste titre, hein, parce que bon, leur nombre de victoires n'a pas beaucoup changé depuis la semaine dernière. Après, on m'a rappelé cette semaine que la France avait attendu 50 ans aussi pour avoir sa première victoire dans le tournoi des Six Nations. Ça permet de pardonner un peu plus les lacunes des Italiens. Du côté anglais, il y a Watson qui a beaucoup beaucoup impressionné.
Ouais, les cannes de feu quand même, Watson.
Ouais, c'était vraiment il a sauvé un essai. Il était partout. C'était vraiment l'homme du match pour moi. Mais voilà quoi, cette équipe d'Angleterre, elle est un peu fébrile parce que j'ai trouvé, voilà, pour reparler un peu de cette équipe d'Italie, que on sentait pas au dernier tournoi des Six Nations, par exemple, on avait une vraie impression d'impuissance. On avait vraiment l'impression que l'Italie n'avait pas de solution, quoi. Là, l'Italie franchissait. Elle avait l'air d'avoir les solutions, mais comme disait Alban, elle se foirait un peu sur la fin. Elle avait du mal à les conclure. Moi, ça me gave un peu ces empoignades, parce qu'il y a eu plusieurs fois où ça a chauffé un peu.
C'est vrai.
Mais en fait, c'est chiant parce que oui, c'était un match chaud, tu sentais que ça charriait un peu, mais en vrai, comme il n'y a plus de bagarre, c'est un peu inutile de se tenir par le col. Enfin, ça fait un peu naze. Au moins, à Ouest, l'année dernière, il avait eu le mérite de la sortir, sa droite, quoi. Plutôt que de rester à s'empoigner pendant une demi-heure, là, à se regarder dans les yeux et à se gueuler comme des chiens dessus, alors que tout le monde sait qu'on fera rien.
C'est vrai que c'est devenu un peu ridicule.
C'est un peu ridicule, quoi.
Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'agressivité dans ce match, hein.
Moi, j'avais en fait regardé ça en anglais et ça m'a fait plaisir parce que je trouve que le commentateur, il a dit deux choses assez drôles. Il a dit l'attaque italienne, c'était comme ce niveau de drague. En fait, c'était très romantique, mais pas très efficace. Mais c'est pas mal.
Les gros clichés.
Joli. Le larto anglais est pas mal.
Je trouve ça plutôt bien. Et le deuxième, il a dit « Il fait plus froid que le poche d'un ours polaire ». Je dis « Oh, bah tiens, c'est des jolis trucs, j'ai jamais entendu. »
C'est un poète.
Allez, on passe au prochain match. Alors, c'est Pays de Galles contre l'Écosse. Ça démarre avec un Flower of Scotland, avec Stuart Hogg qui est complètement en larmes. C'est vraiment trop beau. Ils ont un mec qui s'appelle Beard, mais il n'a pas de barbe. Je trouve ça bizarre. C'est comme un mec qui s'appelle Chauve, mais qui a des dreads. Ça, c'est pas normal du tout. Côté gallois, il y a Alwyn Jones pour la 250e fois. Et le fameux Wainwright qu'on n'a pas vu avec son moustache qui nous a fait péter le plan à notre deuxième ligne dans la Coupe du Monde.
Triste souvenir.
Allez, on démarre avec le match. L'Écosse démarre avec plein d'énergie, trop d'énergie même. Donc, logique qu'ils font des fautes. Les Gallois marquent le premier point, mais Écosse égalise 3-3. Il y a un vin d'Ormerve qui est très fort, et ce n'est pas un gros mot comme ma fille a pensé, mais en fait, c'est un centre de bonne qualité côté Écosse. Et côté gallois, ils ont un Rhys Zimmer. Je pense que ça peut être un bon nom pour un bar chocolaté, Rhys Zimmer. Allez, allez, jolie série pour l'Écosse. Johnny Gray qui fait un grand percé après un pass de Finn Russell. Le 9 fait un coup de pied à suivre à la Dupont. Et voilà, premier essai marqué par un mec qui a le même prénom que ma première copine, Darcy. Finn Russell et Anjon, mais c'est Hogg qui marque le prochain essai avec un coup de pied face à 3 arrières toutes seules. Il marque ses 17-3. Réponse gallois à la 38e minute de Rhys Zammit, 17-8. Deuxième mi-temps, le Bégal qui démarre un peu mal. Tipperick, Jones, les avants, ils sont pas en vue. Bon, ça marche pas pour les gallois, on voit qu'ils sont à l'ouest. Mais d'un coup, ils vont dans la bonne direction. Liam Williams marque un essai, passe par Rhys Zammit. Et même si les Écossais sont devant, ça devient juste 17-15. Et voilà, carton rouge. Un des frères, Faberson, prend 10 mètres d'élan pour déblayer la tête d'un gallois. Je pense que le même monsieur que la semaine dernière. Repense direct des rouges, mais coup de pied raté, 20-17 pour Pays de Galles. Les Écossais ne veulent pas perdre ce match, ils campent devant l'embute galloise. Hogg se plante pas, il plante un essai, 24-20 pour l'Écosse. 3 minutes plus tard, Hogg sauve un essai contre Rhys Zammit. Et 2 fois, je vois Alwyn Jones sur les ailes, je comprends plus rien. Et puis, c'est Rhys Zammit qui se sert un essai bien sucré. Mais coup de pied raté, 25-24 pour les Rouges. 10 minutes à la fin, 14-15, toujours pour les Écossais. Ils essayent tout, ils ont le courage pour gagner. Mais est-ce qu'ils ont l'intelligence? 82 minutes percées sur le côté par des Écossais. Eh ben non, c'est les Red Dragons des Pays de Galles qui gagnent leur deuxième match.
Ouais, c'est étonnant parce que... ces Gallois gagnent 2 matchs d'affilée un petit peu à contre-courant. Ils gagnent à la faveur de la sortie la semaine dernière de O'Mahony sur une faute qui ressemble étrangement à celle de Fagerson, effectivement. Xander Fagerson, le pilier, et non pas son petit frère qui joue au numéro 8, Matt Fagerson. Et c'est vrai que à ce niveau-là, dans des matchs, on va dire, équilibrés et où des détails font la différence, un carton rouge c'est un gros détail, parce que d'un seul coup ça déséquilibre toute une équipe, et on voit très bien à ce moment-là que les Gallois, qui étaient quand même en difficulté, qui avaient été dominés pendant les 50 premières minutes, et franchement à la mi-temps on voyait les Écossais s'avancer vers un succès tranquille, c'est très étonnant. Et sur cette deuxième mi-temps, après ce carton rouge, il y a un gros groupé pénétrant. Et c'est pour la petite histoire d'Alan Wynne-Jones lors de sa 153e sélection, on ne sait pas quand est-ce qu'il va s'arrêter, ce qui est complètement improbable, mais à ce moment-là le ciel leur tombe sur la tête et ils s'en remettent évidemment pas. Ce que je note aussi, c'est que quand on a des joueurs de grand talent, eh bien ça fait la différence, et on sait que aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années, puisque ce petit Louis Rhys Zammit, qu'on voyait sur des petites vidéos tribute to Louis Rhys Zammit quand il avait 18 piges, on disait c'est le futur crack, ben, le mec il a pas mis longtemps, un an après, c'est le crack. C'est-à-dire que le mec se fait 2 essais, le deuxième il est tout simplement énorme, petit coup de pied par-dessus, machin, il va aplatir, il a des cannes de feu. Ça nous rappelle ce que disait notre copain Richard Tardit, c'est que dans tous les sports, quand tu vas vite, il y a toujours une place pour toi. Et là, on le voit avec ce gamin-là qui va à 2000 à l'heure et qui a une tranquillité absolument incroyable. Donc, je trouve que malgré la classe de Stuart Hogg, du petit ailier Graham qui a été énorme, de l'autre ailier qui est le contraire, qui est super costaud, Van der Merwe, qui a été énorme aussi chez les Écossais, Dami Schwatson qui nous a fait plaisir à plusieurs reprises, et ben, ça a basculé à très peu de choses. Je trouve que les Écossais sont malchanceux sur ce match. Du coup on se retrouve avec des Gallois qui sont en passe, s'ils battent les Anglais qui sont quand même pas dans une forme olympique, en passe de faire ce qu'ils appellent la triple couronne, avec 2 premières victoires que je trouve quand même un peu chanceuses, il me semble. Je sais pas ce que vous en pensez les gars.
Ouais, moi aussi je te rejoins sur, je pense que c'est vraiment le mot approprié. On était tous je pense derrière nos écrans à penser que l'Écosse allait gagner, et c'est vrai que cette ligne d'arrière, alors je suis ravie que tu parles des arrières, mon cher Théo, mais je trouve que cette ligne d'arrière, au-delà des avants, mais voilà, vraiment cette ligne d'arrière, moi, m'a beaucoup plu. J'ai trouvé les 2 ailiers incroyables, au-delà des bras de Van der Merwe, les bras de Van der Merwe qui ont une certaine disproportion. Et, et j'ai trouvé, voilà, bon, après encore Hogg dans une forme formidable. Je trouve qu'il fait le match, bon, et d'ailleurs, il est élu homme du match, hein, mais. Voilà, j'ai vraiment été conquise par l'esprit de cette équipe, et c'est vrai qu'on bah, on en vient à être un peu dégoûté que ce soit in fine le Pays de Galles qui remporte ce match. Mais bon, c'est vrai que tu l'as dit, la jeunesse et les cannes de Louis Zamit ont mis vraiment du peps, on va dire, dans cette ligne. Et on regretterait presque la non-présence de George North. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il n'a pas été
Ouais, je sais qu'il
aligné.
était peut-être en protocole commotion, je ne sais pas. Moi, j'ai noté plusieurs petits trucs sympas sur ce match aussi. J'ai adoré le physique du jeune pilier qui entre, le Gallois Leon Brown, qui fait 1m91, 126 kg à 20 piges. J'aime bien, franchement, je valide. J'ai bien aimé les histoires de famille côté écossais, parce que Gary Graham, qui est pas le frère de l'ailier, mais qui s'appelle Graham quand même, fils du pilier des années 80 ou 90, George Graham. Et puis on avait deux fratries, puisqu'il y avait les deux frères Ferguson et les deux frères Gray, puisque Johnny Gray était titulaire et Richie Gray est rentré. J'aime toujours
C'est
ces
vrai.
histoires de famille, moi, et puis je plains les gens qui doivent les faire bouffer, ces familles-là. Ça me fait toujours marrer de penser au repas de Noël.
Ouais, moi je vous rejoins entièrement sur la tristesse pour l'Écosse sur ce match. J'avais dit avant ce tournoi que le Pays de Galles était un peu en fin de cycle, qu'ils avaient du mal à renouveler leurs joueurs. Riz Ahmed dont on parle nous prouve qu'il y a quand même du monde qui frappe à la porte, mais enfin, ils sont. Voilà, ouais, c'est ça, c'est la mineure. Enfin, moi je disais, le carton rouge, c'est un peu s'il est rouge, c'est parce qu'il porte le maillot gallois, quoi. C'est un peu le 16e homme du Pays de Galles pour ce tournoi. Ils ont fait deux matchs chanceux, comme tu dis. Moi je les ai trouvés dégueulasses, mais.
On peut pas enlever aux Gallois le fait, sur les deux matchs qu'ils ont gagnés d'assez peu, de ne pas avoir lâché et de faire preuve de valeur morale incontestable, d'y croire et de se dire non, 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 c'est pas
Oui.
encore gagné, c'est pas parce que tu es mené 17-3 que tu perds. Et c'est ça aussi le sport de haut niveau, le sport de compétition et le rugby. C'est aussi, comme disent les Américains, gagner from behind. C'est toujours meilleur aussi que de gagner en menant tout le match. Et je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas leur enlever incontestablement. Je pense que le match contre les Anglais va être un vrai révélateur, parce que les Anglais sont piqués au vif. Ils peuvent en prendre une sévère, les Gallois, contre les Anglais, à mon avis. On en reparlera.
C'est quand même ça, Théo, qui leur a permis d'être demi-finale de la Coupe du Monde, je trouve, cette niaque pour finir les matchs.
Absolument.
Tout à fait.
Et aussi le coup de coude quand même de notre copain. Mais bon, ça, c'est autre
Oui.
chose.
Je pense qu'on est tous d'accord qu'on veut que les Écossais finissent deuxième derrière nos Bleus.
Ce serait bien.
Allez, ça, c'était notre journée de samedi. Et dimanche, on avait du lourd, du lourd. C'était France-Irlande. Démarrage de match très bruyant pour les Bleus, deux touches perdues, des chandelles irlandaises qui nous mirent en danger, opportunité de contre loupée malheureusement par en avant d'Ofikou, pénalité pour nous. Il a été parfait la semaine dernière, Jalibert, dit le présentateur, bah merci, bon c'est raté. Cyril Bailly, deux pénalités contre lui, pression irlandaise quand même, mais Brice Dulin assure. Penalty de Awas, mais Burns le rate by a mile, comme on dit. Mais j'ai jamais vu un penalty raté par autant.
T'es vraiment foireuse.
L'arbitre a bien dit: It is a messy situation. C'est un peu de bordel, tout ça. À carton jaune contre le roux pour un croche-patte hyper bien fait. Repense directe de Laws avec un essai dans le coin. Échappée belle pour nous, le bleu, parce que son pied était d'horreur. Mais on n'est pas serein, on n'est même pas réveillé, j'ai l'impression. Sauf que on arrive à gagner deux touches à la suite. Là, finalement, on a la ballon. 3-4 passes sympas et Olivon passe la vitesse supérieure. 7-3 pour la France. À 37 minutes, on a un mêlé, mais pas très assuré. C'est Adrit qui nous fait du bien. On arrive à mettre un pénalité de 3 points. 10-3 à la mi-temps. Deuxième mi-temps démarre fort avec un joli percé de Marchand, mais notre essai rebondit contre la tête de Williamsey. En parlant de tête, il y a du sang partout et trois Irish qui sont sortis pour une commotion cérébrale. Les Bleus, ils ont la balle et ça fait du bien, sauf qu'on fait rien avec, malheureusement. J'ai l'impression qu'on préfère défendre qu'attaquer, mais à 55 minutes, essaye quand même par Penaud, merci à Doolin. Réponse directe des Irlandais suite à un pénalty fictif contre Ovilon. Touche irlandais et paf, Irlande marque un essai grâce à un rebond favorable. 15-10, essai pour Keller. Les Verts sont de nouveau dans le match. On essaie des choses, on essaie des machins et des trucs, mais pas de chance. Un autre pénalité fictive, un plaquage haut contre UDMC. 15 à 13, toujours pour la France, mais on n'est pas serein. Teddy Thomas est arrivé. Et mon mec à moi, il est gros, il est beau, il est barbu. Antonio entre dans le match. Mais on a 10 minutes à la fin et que 2 points d'avant. Pénalité pour nous, mais les poteaux disent non. Heureusement, il y a un super-héros numéro 9 qui fait avancer les Bleus. On campe dans les 22, mais pourquoi on joue à pied avec une minute? Je comprends pas, mais heureusement, la défense est bonne. Ouf, collectif de la France, on gagne 15 à 13.
Oui, la défense de la France à la fin est bonne. Elle est incroyable parce que faire reculer en défense comme ça sans faire de faute, les Irlandais reculaient, quoi. J'avais presque de la peine pour eux. Si j'avais pas été en apnée, j'aurais pris le temps d'avoir de la peine pour eux.
Ouais, il y a eu une série de plaquages offensifs très impressionnants, ouais.
Ah ouais, ouais non, cette phase défensive était assez dingue. Comme tu disais, au début du match, pour moi, la seule satisfaction de ce début de match, c'était de voir Paul O'Connell en tribune. C'est toujours plus rassurant de le voir en tribune que quand il était sur le terrain, et c'était toujours agréable de le voir. Dulin, il nous a fait un peu peur en début de match, parce que ouais, il loupe une balle sur réception, il se fait contrer un ballon aussi, donc mais très rapidement, dès la 15e, il recommence son festival et il a été énorme. Ça a été un match, comme annoncé, très dur. En fait, les Irlandais, ils nous ont fait cette semaine ce qu'ils ont fait aux Gallois la semaine dernière. Ça a tapé dur, mais au niveau de la tape, on avait Aldrit, on a récupéré Aldrit, et je pense qu'ils étaient pas prêts, les Irlandais, parce que quand tu parlais tout à l'heure de...
Il est énorme.
Il était dingo, et tu parlais tout à l'heure des Irlandais qui ont été sortis, mais la charge d'Aldrit qui laisse deux Irlandais au sol derrière, c'était Attila, quoi. Tu sais, qui laisse des cadavres derrière.
Là où Aldrit passe.
Les Irlandais trépassent,
quoi.
C'était vert, il l'a pris pour du gazon, il a marché dessus, quoi. Bon, ils sont un peu télescopés, ils sont un peu assommés tout seuls, mais enfin, l'image était quand même assez dingue, elle représentait pas mal Aldrit. Ça a été un combat de guerrier. Le Rousse en est bien sorti, même s'il a pris un jaune.
Pour une faute assez minable, honnêtement.
Les Français n'ont pas loupé leurs occasions. C'est-à-dire que chaque fois, ils ont été assez, assez mathématiques, assez froids. Un peu comme tu nous décris les Anglais souvent, Théo. Chaque incursion était dangereuse, voire payante. Et on a défendu très bien. Même si le score est serré, et même si, clairement, les 10 dernières minutes... On a perdu 5 litres de flotte, on a tous serré les dents, serré les fesses et beaucoup transpiré. J'ai trouvé que sur ce match, il y avait quand même une non-panique, quoi. Enfin, j'ai jamais trouvé les Français... Il y a quelques années encore, les Français auraient paniqué avec un match comme
ouais,
ça.
Ouais, on peut, je pense, en particulier au travers de Brice Dulin, faire quasiment l'histoire du match sur son histoire de match, parce que les Français font une entame quand même assez poussive, ils ratent beaucoup de touches au début, effectivement ce ballon contré, plusieurs ballons hauts un peu cafouillés, et puis en fait ils s'affolent pas,
ouais, c'est ça.
Ils finissent par re-rentrer dans leur match, et ils re-rentrent dans leur match avec notamment en tête de pont un Aldrit complètement stratosphérique sur le milieu de terrain. Il a totalement effacé du paysage CJ Stander, oui. Qui est quand même pas le premier venu qu'on n'a pas vu du match, c'est invraisemblable. Et puis Dulin, le timing de ce mec, mais moi je pourrais passer, je crois, enfin des heures en fait à regarder ce mec monter sur les ballons hauts, tellement je trouve ça kiffant, quoi. C'est absolument fou. Alors il en rate un ou deux au début, et après un festival, ouais. Un festival. Ouais. Teddy Thomas en prend une aussi exceptionnelle à la fin, qui nous fait ouais. Beaucoup de bien.
Ouais, dans le bon timing.
Dans le bon timing. Et puis effectivement, on a lu un peu dans les commentaires, bah oui, c'est Sean Edwards qui a gagné le match. Ça veut dire que la défense, en deuxième mi-temps en particulier, et en fin de match, où t'es quand même pas serein, les mecs reviennent à deux points, en marquant un essai hyper chanceux, parce que Olivon prend le ballon en touche, et malheureusement, il gère mal la transmission, rebond, machin, Keller qui va marquer. Enfin, l'essai des Irlandais, il vaut que dalle. Ouais, ouais. Honnêtement, vaut rien.
C'est con parce que c'est la seule touche qu'on a maîtrisée. Parce qu'on a été très bien lu en
c'est
touche.
Un peu ça.
Je pense seul que les Irlandais, effectivement, le point noir
du match, la touche.
Et c'est, on réussit à la contrer.
C'est un peu inquiétante.
Bah ouais, mais je pense qu'on a été clairement lu en touche. On est attendu maintenant. Là, les mecs, ils savaient quoi faire. Particulièrement ouais, la fameuse touche au-delà des 15 pour le centre. Bon, bah, on a failli se prendre un essai par le 5, hein, sur. Mais la seule qu'on contre, putain, ça nous coûte un essai, quoi. Donc c'est un peu rageant, quoi.
Et moi, j'ai vibré comme un fou dans mon canapé sur l'essai de Penaud, parce que c'est vraiment, je trouve, une super action. Ça part d'une très belle touche avec Marchand qui déchire tout au milieu du terrain, et puis ça va pas marquer, mais plusieurs temps de jeu à droite, à gauche, on s'affole pas, et puis très très bien joué de la part de Dulin qui vient faire l'offrande à Penaud. Franchement, des essais comme ça, c'est magique.
C'est royal.
Parce qu'il y a aussi pas d'affolement. Cet essai-là, c'est aussi l'histoire du match. On n'est pas dans la facilité, on est dans l'application. Ouais. C'est ça que j'ai adoré.
Ouais. Pour moi, c'est vraiment ça la clé du match, comme vous le dites. Hein, c'est qu'il y a encore 2-3 ans, l'équipe de... Enfin, même encore l'année dernière, je ne suis pas sûre que cette équipe aurait su maîtriser ce jeu. On a quand même un Dupont, qui est quand même le ministre de l'Intérieur, comme on dit, qui se fait quand même asphyxier par la défense. Hein. Honnêtement,
il était cherché. Ouais.
Il a aussi fait pas mal de coquilles dans des choix de jeu, etc. Il était sous pression sur quasiment tous ses ballons, des transmissions qui ont été un petit peu gâchées, etc. Mais quand il a fallu trouver la clé, il l'a trouvée avec ses partenaires. Et je trouve que ça, c'est quand même vraiment la preuve du talent de cette équipe et de sa solidarité. Enfin, on entend les discours de Gaël Ficou à la fin des matchs qui dit bah voilà, tout le monde a rattrapé un peu la connerie des autres, Leroux qui sort sur carton jaune qui
a
400 plaquages derrière. Donc c'est assez voilà, moi je que enfin c'est vraiment l'état d'esprit qu'on aime voir, et je trouve vraiment que cette efficacité dans les temps forts, c'est quand même incroyable. On est fort.
C'est clairement un des tournants du match aussi. On voit très bien que quand tu vois les Écossais, ils prennent leur rouge, ils prennent essai juste derrière, alors qu'en fait, ils sont juste un de moins pendant 10 minutes. Mais eux, pendant tout le match. Mais je veux dire, quand tu prends un jaune, c'est pareil, t'es un de moins. Et au contraire, les Français, un à un de moins, marquent. Moi, j'ai adoré aussi Dulin sur l'essai refusé à l'ailier Lowe, qui est énorme. L'ailier il est super fort, le mec, très très fort.
Il fait un très très bon match.
Sur l'essai refusé, il va au sacrifice Dulin sur la défense, il laisse tomber. S'il y va pas comme ça, il y a essai 4 fois ou 100 fois. Il y a été, mais gaiement. Pourtant, il n'est pas.
Il n'a pas beaucoup fait bouger l'eau. Hein.
Il y a Oval Masqué qui dit c'est là où tu vois qu'au rugby, la frontière est mince entre courage et stupidité. Masqué, il y va comme un bonnet. Mais moi, j'ai bien aimé aussi après le sacrifice de Dulin, la petite filouterie de Ficou qui arrive quand même et qui tire le pied de l'adversaire pour qu'il sorte un peu en touche quand même.
Ça,
quoi,
maintenant, c'est pratiqué. Ouais. Ça.
Ouais. Je trouve pour Ficou, c'était pas un match où il était beaucoup en vue, mais ce gars, il nous fait un bien énorme.
Il est parfait, c'est incroyable.
Je me souviens quand j'ai commencé à regarder le rugby, il y avait le grand Josion. Et tout le monde disait, il y avait une époque où il était meilleur centre du monde, en fait. Et quand je regarde Ficou, Josion, je trouvais qu'il était si long, dans le sens qu'il faisait jouer tout autour de lui, et ça faisait grandir des personnes autour de lui. Et avec Ficou, je trouve exactement la même chose. Où il c'est un facilitateur de jeu, quoi.
C'est vrai, il devient un joueur qui apporte une grande sérénité. Il ne faut pas oublier là qu'en plus on joue ces matchs-là clés sans Virmi Vakatawa, qui est le meilleur centre de l'équipe de France quand même depuis au moins 2 saisons. Les autres lui tournaient un petit peu autour, et à chaque fois c'était quand même lui le taulier. Et là on arrive à gagner ces matchs-là avec Virmi en tribune ou plus ou moins dans son canap. Arthur Vincent à nouveau, excellente performance. Donc sortie après sortie, on se dit mais putain, en fait cette équipe n'a pas de points faibles. Il n'y a pas de points faibles parce qu'il y a du réservoir et des grands joueurs à tous les postes, et ça c'est fantastique, c'est vraiment kiffant.
Pour conclure sur Ficou, il pousse même en mêlée, quoi.
Oui, j'ai vu.
Exactement, c'est ce que j'allais dire c'est le neuvième avant, mais comme beaucoup de centres, comme beaucoup de premiers centres qui sont en vrai des troisièmes lignes refoulées, on le sait tous.
Même chez les filles
on m'a souvent dit tu veux pas remplacer un troisième lettre. Non, mais c'est vrai que c'est des jeux un petit peu complémentaires où tu mélanges vitesse et aussi défi physique, donc c'est vrai que c'est des postes qui sont quelque part similaires, on va dire. Et pour Ficou, c'est marrant parce que je lisais une interview de Fabien Pelous dans Rugbyrama qui disait qu'il ne comprenait pas comment Ficou n'était pas aujourd'hui le meilleur joueur du monde, qui était capable de faire beaucoup mieux. Et c'est vrai qu'on sent qu'il en a encore sous la pédale, quoi. Donc j'ai vraiment hâte d'être en 2023.
En plus, 60 sélections que 26 ans aussi.
C'est
chouette, on a beaucoup de temps encore avec lui, c'est vraiment agréable. Théo, j'étais tout à fait d'accord avec toi sur Stander, et j'ai même marqué dans mes notes, est-ce qu'il a un peu peur ou pas, parce qu'on l'a vu détruire le 8 en face contre le Pays de Galles la semaine dernière, et cette cette semaine-là, bah, j'avais l'impression qu'il n'allait pas direct en contact. Il évitait un petit peu, mais peut-être c'est juste moi. Mais,
non, il a disparu, effectivement. Perdu de recherche, hein, Jacques Pradel va nous chercher CG. Non, sérieusement, je pense qu'on ne peut pas non plus être tout le temps au top. Rappelons-nous que ce sont que des hommes et qu'on a le droit d'avoir un jour où on est un peu moins bien. CG Stander n'était pas là. Et autant il avait fait un gros match au Pays de Galles, autant là, il a été complètement étouffé et il n'était pas dedans.
Ouais. J'avais une question aussi, mais avant ça, je trouvais bon, l'arbitre qui a parlé français, je trouvais ça mignon parce qu'à chaque fois qu'il disait, il voulait dire lâche, j'ai compris, lâche le ballon. je devais pas marquer les accents des autres. Mais en fait, j'avais une question sur ce jeu dans l'air. Moi, je suis pas un expert là-dedans, donc j'ai l'impression qu'il y avait des coups de pied partout, mais j'avais l'impression qu'on gagnait en général, on gagnait cette bataille-là parce que c'est nous qui finissait avec, qu'ils ont avancé avec le ballon plus. Est-ce que c'est bien ça?
Ouais, on l'a pas gagné tout le temps, mais moi ce que je trouve surtout sur le jeu au pied et le jeu aérien, on a beaucoup dit, et d'ailleurs ça s'est vu dans le match des Écossais contre les Gallois aussi, ça a été très important, que le jeu au pied devient une arme vraiment fatale dans le rugby moderne, en particulier soit le jeu au pied très haut devant la ligne des 22, soit le jeu au pied court derrière la ligne de défense. Et ce qui me frappe, c'est surtout que les joueurs ont tous énormément progressé dans la précision de ce jeu au pied. Avant, on avait tendance à balancer des grandes chandelles et à voir ce qui se passait en dessous, puis on verra bien, allons-y, on arrive avec des grands moulinets, et puis on regarde. Non, ça c'est terminé. Maintenant, les mecs arrivent à faire 4 fois sur 5, 5 fois sur 6, des jeux au pied extrêmement précis et qui demandent en dessous une qualité de timing et de jeu aérien vraiment hyper exigeante et hyper difficile. Et là-dessus, nous, on a des grands joueurs. C'est-à-dire qu'effectivement, un Brice Dulin, un Teddy Thomas, quoique Teddy Thomas est un petit peu plus inégal, mais on a plutôt gagné ce match-là. Mais les Irlandais n'ont pas été ridicules hein, en jeu au pied. Ils ont été bons aussi. Ils ont gagné plusieurs ballons aussi. Et tu vois que maintenant, toutes les grandes équipes internationales pratiquent ça de façon extrêmement précise. Et d'ailleurs, c'est des phases de jeu qui sont génial parce que tu as toujours une tension pas possible à la retombée du ballon et on est tous en train de serrer les fesses, en train de se dire qui va dégueuler, qui va la choper.
Et pourquoi alors que quand nous on avait le ballon, on avait une minute, on était devant, pourquoi on lançait des coups de pied dans l'air comme ça? Parce que à mon avis, je disais mais pourquoi on donne le ball? Bon, c'est peut-être bien qu'on fait pas des pick and go comme des Anglais il y a 10 ans, les 5 dernières minutes c'est que des pick and go. Mais je trouvais ça bizarre qu'on redonnait le ballon aux Irish avec 2-3 minutes qui restaient.
Oui, on s'est un petit peu trop débarrassé du ballon à la fin, je suis assez d'accord. Mais on voulait les maintenir comme on avait une prestation défensive qui était extrêmement convaincante. Je pense qu'on avait dans l'idée de les maintenir chez eux et de leur donner le ballon, puisque de toute façon, eux, ce qu'ils savaient, c'est qu'en remontant ce ballon, ils allaient se prendre des tampons dans la gueule. Grosso modo, c'était la confiance dans la qualité de tampon et dans l'organisation collective de défense.
J'avais encore juste 2-3 petits trucs. Moi, je suis très content que Olivon se relance pour concourir pour le meilleur marqueur.
Il a des cannes, ce con. Hein.
Il a des cannes. Hein. Willem C, il m'a un peu attristé parce qu'il y a eu quelques petites... Pour moi, il a fait un super match parce que c'était un match de guerrier et il était dedans. Et on va retenir malheureusement sa petite passe dans la tête, la petite pénalité qu'il a coûté, son petit en avant. Alors, ouais, un peu d'empathie pour le Willem C. J'ai beaucoup rigolé quand Lartaud a dit que passe trop haute pour Dulin, j'ai pouffé bêtement. Parce que c'est assez drôle que celui qu'on appelle le... C'est toi qui avais appelé le Leprechaun la semaine dernière, Ticket. Du coup, j'ai repensé à ta vanne parce que, ouais, bah, il est... Et une petite remarque, c'est qu'on a quand même l'air un peu con avec ce confinement à être, ou ce couvre-feu, mais en tout cas dans ces circonstances un peu spéciales, où même chez moi, je suis tout seul, où tu peux même pas regarder un match avec des potes à cause du couvre-feu. Sur le dernier essai français, j'ai eu l'air un peu con à me lever et à hurler tout seul pour applaudir. Il y a eu un petit moment de gêne quand je me suis rappelé que j'étais tout seul.
On était là, on était tous ensemble.
C'est gentil, c'est rugby.
Et voilà, donc une seule chose sûre, qu'on a tous passé un bon moment devant notre télé ce week-end. Et bravo, bravo les Bleus.
Moi, je suis amoureuse de ces Bleus. Je suis ravie d'avoir passé ma Saint-Valentin avec cette équipe.
Oh, c'est pareil. Oh.
Comme c'est romantique. C'est la petite touche féminine du pack de potes.
On avait
Est-ce que tu penses qu'on serait crédible avec des propos pareils, Nouvelle-Batte?
Franchement, ce serait trop mignon.
Mais Fabien Galthié, en interview d'après-match, a dédié cette victoire pour la Saint-Valentin à tous les amoureux du rugby. Donc, il a eu une petite pensée aussi pour
Et oui.
C'est bien joué.
Malin.
Une dernière chose que par rapport à cette équipe, c'est que j'adorais la façon qu'ils faisaient la fête après. Je trouve ça vraiment génial, quoi, par rapport à des équipes qu'on a peut-être vues avant.
Des juniors.
Ouais, vraiment. Ça s'entend qu'ils aiment gagner, ils aiment jouer ensemble, ils aiment gagner ensemble, et ça fait plaisir, quoi.
Non, et puis c'était la première victoire en Irlande depuis 10 ans, faut pas le rappeler, faut pas l'oublier, pardon, on l'avait dit, donc mine de rien, aller gagner en Irlande, voilà, ils avaient coché ça, je pense, depuis un bon petit moment en tant qu'équipe, ça a été très très tendu, tu viens gagner de 2 points, donc effectivement, quand ça siffle, bah, tu te lâches. Et là, émotionnellement, t'as vu Brice Dulin en larmes d'ailleurs. C'était bon, je pense que c'était très fort pour eux.
Ouais. Par contre, avec une moyenne âge de 25 ans, pourquoi ils sont allés chercher un tube des années 90 pour célébrer leur victoire?
Mais c'est la meilleure chanson, c'est la meilleure chanson. Freed from Desire.
Je propose qu'on leur envoie ton t-shirt de Motorhead, Charlie, et puis on en parle plus. Les gars, oui. Je voudrais juste quand même un petit truc en direct. C'est que on a été sélectionnés. Évidemment, par la qualité de notre émission, dans Nouveautés et Tendances sur Apple Podcast, les gars.
Oh, wow! Voilà.
Donc, je vous invite quand même, si vous avez un iPhone, un iPad ou quoi que ce soit d'autre, à aller nous liker ça, illico, dans Nouveautés et Tendances, le pack de potes est au rendez-vous.
Tu nous avais gardé cette petite surprise pour la fin? Ça fait bien plaisir,
évidemment.
Bah, très bonne idée, super Théo, merci pour les nouvelles. Allez, prochain match pour les Bleus, c'est contre l'Écosse. Et si vous vous souvenez de l'année dernière, c'était quand même, on a perdu 28-17, donc c'est un sacré match. Je vous invite, chers auditeurs, d'écouter sur Apple Podcast épisode 18. En fait, c'était vraiment un épisode sympa à réécouter parce qu'en fait, on a pris 15 minutes pour vous m'expliquer les règles de Chabit de Marleur. j'étais éclaté de rire en train de réécouter ça aujourd'hui. Ça m'a fait vraiment un grand plaisir. Donc, épisode 18 avant ce prochain match contre l'Écosse qui va être en 2 semaines. Italie, Irlande aussi et Pays de Galles contre l'Angleterre.
Un épisode pour les amoureux de bagarre.
Ouais, épisode 18, l'histoire du chabit, another rugby rétro-classique.
Allez, quelques petits points rapidement. Donc, je me suis posé la question sur des Sevens, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Sevens. Je suis allé au Super Sevens à Paris l'année dernière, avant Covid. Et où est-ce qu'on est, Alban, par rapport à des Sevens en ce moment?
Eh bien, tu fais bien d'en parler, car il n'y a pas que l'équipe de France qui a retrouvé le chemin des terrains, mais aussi, enfin, l'équipe de France à 15, pardon, les équipes de France à 7 sont aussi en pleine préparation d'un tournoi à Madrid qui se passera ce week-end, enfin le week-end du 20-21 et le week-end du 27-28 février. En fait, c'est des tournois de préparation aux tournois de qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo de cet été, normalement, on y croit. Et c'est un tournoi avec 12 équipes, 6 masculines, 6 féminines, qui s'affrontent sur ces deux week-ends. Et ça fait vraiment plaisir de revoir le Sevens à haut niveau après plus d'un an, plus d'un an d'arrêt. Les pauvres, ils s'entraînent comme des dératés et presque, enfin pas pour rien, mais vraiment avec cette perspective des JO, mais c'est dur et ça fait plaisir de les revoir sur le terrain.
Ouais, et puis les bulles sanitaires, c'est moins compliqué à 7 qu'à 15.
Exactement. Et après Madrid, du coup, la prochaine échéance, ce sera le tournoi de qualification olympique qui aura lieu à Monaco cette année, courant juin.
Super, mais juste pour le petit souvenir aussi, la France, on était 4e pour les hommes et les femmes l'année dernière en Sevens, il me semble.
Tout à fait.
Donc, ça veut dire en fait, après ces 6 nations hommes, on aura les femmes en avril, donc ça c'est chouette. Après, il y aura la U20 en juin et juillet. Après, on aura des JO, donc les Sevens pour fin juillet, août. Donc voilà. Et après ça, on a la Coupe du monde féminine à Nouvelle-Zélande, en espérant en septembre. Donc voilà, je pense qu'on a pas mal de rugby à regarder cette année.
Et nous, on se repose jamais.
Bon, non, parce qu'il n'y a plus de match, il n'y a plus de Champions League, donc on peut se reposer ce week-end-là. Allez les gars, est-ce que vous avez d'autres choses?
Bah, peut-être qu'on peut interroger Théo sur sa réaction par rapport au transfert de Teddy Thomas au Stade Toulousain.
Bon, d'abord, c'est pas encore signé, hein. C'est effectivement annoncé. Moi, je pense que de toute façon, Teddy Thomas, ça fait 6 ans qu'il est là. Je pense qu'il a besoin d'un nouveau challenge et c'est certainement pour ça qu'il décide d'aller voir ailleurs. Quelque part, moi, je lui ai jamais pardonné quelques petites fautes qu'il a faites qui ont coûté très très cher à son club. Je lui dirais bon vent, avec tout le respect évidemment que je lui dois, et je lui souhaite de réussir et puis de se trouver ou de ne pas être au rendez-vous quand ils joueront contre le Racing. Pour tout le reste, bonne route, voilà.
Bon les gars, comme chaque semaine, ça m'a fait vraiment un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et franchement, j'ai eu une semaine qui n'était pas facile. Et franchement, d'avoir ce moment ensemble, vraiment, vous êtes mon pack de potes à moi. Donc je vous embrasse ce week-end de Saint-Valentin. Bisous à vous.
Gros bisous le pack. Mais dans le pack, de toute façon, on est serré, on est collé. C'est comme ça qu'on s'aime.
Et pour terminer sur cette semaine de Saint-Valentin, n'oubliez pas vous aussi de nous communiquer, nous transmettre tout votre amour par des petits commentaires, des partages, des likes sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Apple, Spotify. Vous nous trouverez partout.
Allez, revenez en 2 semaines.
Salut à tous, c'était un grand plaisir. Bye bye.
Ciao, ciao.
Bah, salut tout le monde, à dans 2 semaines.
Ciao, ciao, bye bye.